Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Michel Leduc et Emmanuel Huysmans-Perrin. Michel Leduc, Philippe Askenazy, bonjour.
Bonjour.
Michel, vous allez vous occuper de cette interview, cet entretien, c'est à vous.
Avec plaisir. Donc, Philippe Askenazy, vous êtes un chercheur renommé en économie à l'École normale supérieure de Paris. Vous venez de publier « Partager les richesses » aux éditions Odile Jacob. Cet ouvrage savant, mais largement accessible, est une édition augmentée de tous rentiers pour une autre répartition des richesses. Vos préoccupations sociétales recoupent celles de l'Union rationaliste. Merci donc d'avoir accepté de répondre aux questions que nous allons vous poser maintenant, Emmanuel Huysmans-Perrin et moi-même.
Merci de cette invitation. Au sein de mon ouvrage, il s'agit essentiellement de se poser la question de la domination aujourd'hui d'une doctrine néolibérale et de s'interroger pourquoi il y a eu un reflux, une quasi disparition ou l'incapacité pour la social-démocratie de s'imposer dans le débat public ou tout du moins d'être une alternative face à ce néolibéralisme. Et qui nous laisse finalement une situation où il y a une forme de face-à-face, et un face-à-face en partie artificiel entre une extrême droite et ceux qui proposent d'aller encore plus loin dans une démarche de développement d'une stratégie néolibérale que je peux développer si vous le souhaitez.
Oui, vous êtes un des initiateurs de l'Association des économistes atterrés qui réfléchissent aux évolutions du couple capital-travail et ne cessent de faire des propositions. Bon. Comment situez-vous cette démarche qui est la vôtre par rapport au dogme du néolibéralisme que vous venez de mentionner, qui constitue la démarche actuelle de la plupart des gouvernements de l'Europe de l'Ouest? Quels en sont, selon vous, les présupposés, les conséquences et les risques aussi?
Oui, alors écoutez, donc ça me permet d'aller sur la définition du néolibéralisme. Il s'agit vraiment d'une doctrine qui s'est construite à partir des années 1970 et qui repose sur quelques piliers centraux. Parmi eux, il y a la dérégulation des marchés et notamment la destruction de ce qui est qualifié de rigidité sur le marché du travail, donc la protection individuelle et collective des travailleurs. Il s'agit également de programmes de privatisation, de démantèlement des monopoles publics, y compris d'une extension des activités privées sur ce qui est le segment du secteur public. C'est également la mise en avant d'un arbitrage dans la société entre d'un côté l'égalité et l'efficience, et dont un des avatars est l'idée du ruissellement, le fait qu'il y ait des riches qui ruissellent sur l'ensemble de la société est plutôt favorable à l'activité économique. Et puis, dernier point essentiel, c'est qu'il y a toujours une place pour l'État, et cette place pour l'État, c'est essentiellement de sécuriser et d'étendre la propriété privée. C'est un ensemble qu'on qualifie de néolibéral, et je pense que c'est important de préciser qu'il n'est pas nécessairement libéral au sens à la fois de libéralisme économique et de libéralisme politique. On l'a vu par exemple, le laboratoire du néolibéralisme dans l'Amérique du Sud a été le Chili de Pinochet. Le néolibéralisme peut tout à fait se mettre en œuvre dans des régimes autoritaires. Voilà. Alors, à partir de là, ce que l'on voit aujourd'hui et qui a finalement motivé la création de l'association des économistes atterrés et de leur démarche, ça a été après la crise de 2009, ce qu'on appelle la grande récession et qu'on peut largement attribuer à des déséquilibres du capitalisme et notamment de sa sphère financière. Ce que l'on a vu à partir de 2010, c'est une forme de total renversement et notamment en Europe. l'Europe, où ce sont les États qui ont été accusés à travers ce qu'on appelait la crise des dettes souveraines comme étant ceux qui posaient problème au sein de nos économies et qui ont entraîné, et c'est là où vraiment c'est en quelque sorte on a été des collègues à descendre, à vouloir descendre dans la cité, à entretenir le débat, parce que d'un côté il nous a paru être, disons, violent d'attaquer ces États. Il faut voir qu'à l'époque, on parlait des pigs, hein, vraiment des cochons. Alors, qu'est-ce que c'était que les pigs? C'était acronyme pour Portugal, Italie, Grèce et Spain. Donc, c'était l'Espagne. Et qui, donc, s'est traduite par une politique qui nous paraissait totalement absurde, qui était d'avoir, à travers l'ensemble des pays européens et simultanément, une stratégie d'austérité budgétaire et ce qu'on appelle des réformes structurelles et ce qu'on voulait dénoncer, c'est malheureusement passé. Si vous voulez, on aurait eu envie d'avoir tort, on aurait eu envie qu'il y ait une reprise économique, qu'il n'y ait pas des millions de pauvres supplémentaires, notamment dans le sud de l'Europe. Alors depuis, donc mes collègues hein, qui continuent à se mobiliser au sein des économistes atterrés, alors certains peuvent les accuser de militantisme, d'anti-néolibéralisme, pourquoi pas, d'une certaine manière. C'est essentiellement faire vivre le débat par rapport à des éléments qui nous apparaissent comme non pas des vérités scientifiques, mais des éléments qui sont bien plus effectivement dogmatiques. Alors moi, dans mon essai hein, que vous avez cité, Partager les richesses, voilà, exactement, oui. Il s'agit pour moi, plutôt que d'être un économiste atterré, je suis un économiste angoissé, puisque comme je vous le disais, ce qui me fait peur, c'est que en ayant finalement face au mécontentement de la population, mécontentement parce que la promesse du néolibéralisme qui était, il y a des inégalités, mais il y a la prospérité. La prospérité, on ne l'a plus. On a une part importante de la population qui stagne, qui est dans la difficulté. Cela crée des mécontentements qui sont aujourd'hui repris par la seule offre politique qui est dominante par rapport au néolibéralisme. C'est une extrême droite et à nouveau qui est une fausse alternative. Donc tout mon propos est d'essayer de comprendre comment, d'où vient l'échec de la social-démocratie et comment on peut renouer un débat qui évite que l'on aille vers une dislocation de nos démocraties libérales et qu'on tente vers l'illibéralisme que l'on voit notamment en Europe de l'Est, dans des pays comme la Pologne ou la Hongrie.
Alors justement, on pourrait rebondir sur l'idée d'égalité, puisque vous parlez des inégalités. Vous explicitez dans votre ouvrage le concept d'égalité des chances, qui est issu du blairisme, que vous opposez à celui d'égalité tout court, auquel les Français ont été de tout temps très attachés. Alors, est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu sur cette différence qui semble être tout à fait récente, hein ? Vous affirmez que les barrières à la mobilité sociale, dont vous avez parlé, sont plus que jamais en place dans les économies avancées. Et pouvez-vous expliquer ces mécanismes économiques et politiques à l'œuvre qui contredisent finalement les intentions affichées par les gouvernements successifs, qu'ils soient de droite ou de gauche?
Oui, alors tout à fait. Alors déjà, l'égalité des chances ou égalité d'opportunités était présente dans des réflexions comme celle de John Rawls sur sa théorie de la justice. Ça a été véritablement mis en œuvre d'un point de vue politique à partir du début et milieu des années 1990 avec le clintonisme et le blairisme. Il s'agit en quelque sorte d'accepter un ordre social qui est justement l'ordre social néolibéral, voilà, des inégalités de revenus, des inégalités de patrimoine, et d'y substituer une autre type de promesse, une promesse qui peut être offerte par les progressistes, voilà. Et cette promesse-là, c'est que, selon vos talents, eh bien, vous allez pouvoir progresser dans la société. Et donc, il y a une mobilité sociale possible. Et ce que vont offrir les progressistes, c'est que, à votre naissance, on aurait tous les mêmes chances pour pouvoir atteindre ces niveaux élevés dans la société. Et c'est en quelque sorte compatible avec les idées néolibérales de responsabilité individuelle. On est chacun entrepreneur de soi-même, sauf que l'État offre la capacité de cette liberté. Et lorsqu'on regarde le blairisme, eh bien, il a donné en quelque sorte les des moyens. Il y a eu des investissements massifs dans le domaine de l'éducation, des centaines de milliers d'embauches pour mettre à niveau notamment l'éducation primaire et secondaire. Mais au bout du bout, on sait que 20 ans après, eh bien, il n'y a pas eu d'augmentation de la mobilité sociale. Alors pourquoi cela ? Parce que dans le même temps, les inégalités de patrimoine, de revenus ont augmenté. Or, il se trouve que ce que gagnent vos parents, le patrimoine de vos parents, là où vous logez, dans les écoles, là où vous allez, eh bien, c'est ça qui essentiellement détermine vos chances dans le futur. Et donc, finalement, la promesse d'égalité des chances, pardon, elle n'est pas possible si on ne se préoccupe pas de la question des inégalités.
Oui, je voudrais rebondir sur ces inégalités parce que dans votre ouvrage, vous expliquez que les inégalités, en fait, se creusent au milieu des classes sociales, entre différentes corporations sur le marché du travail. Il y a des moins qualifiés qui sont vus comme improductifs, qui sont évidemment les beaucoup plus nombreux, et puis les situations différentes pour les privilégiés, et la situation, comme vous venez de dire, constamment empire en France comme en Angleterre. Alors, qui sont ces plus chanceux? Comment expliquez-vous la polarisation? En fait, vous parlez de polarisation du marché du travail. Comment l'expliquez-vous? Pouvez-vous donner des exemples? Les plus chanceux, les moins chanceux.
Oui, alors, vous voyez, je vais avoir un positionnement assez particulier sur la question de la polarisation. Alors, disons qu'à la base, c'est quand même une forme de théorie où on va séparer le monde du travail en trois blocs. Un bloc en quelque sorte central, ceux de moyenne qualification, qui serait remplacé par la machine. Et donc, ça permettrait d'expliquer une forme de disparition d'une classe moyenne. En haut de la société, on aurait des travailleurs qui sont, eux, complémentaires avec les technologies de l'information, Internet, etc. Et donc, comme ils sont complémentaires, leur productivité augmenterait, on aurait plus besoin d'eux, et finalement, ça justifierait que leurs revenus progressent. Et puis, vous avez le bas de la société qui, elle, du monde du travail, qui ne serait pas concerné par le changement technologique. C'est pour ça que certains emploient le mot d'improductif, il n'y a pas de gain de productivité chez eux, ce qui permet à la fois de justifier qu'ils continuent à exister, ils ne sont pas remplacés par la machine, et donc leur poids progressif augmente, mais en même temps, on a une justification du fait que leur rémunération n'augmente pas parce qu'ils ne sont pas touchés par la technologie. Et c'est ça que j'essaye en grande partie de déconstruire dans mon ouvrage. Parce que lorsque l'on regarde en bas de cette hiérarchie salariale, on peut prendre, donc vous m'avez invité à prendre un exemple, il y a le cas des personnels d'entretien comme des tâches dans l'hôtellerie qui se mobilisent d'ailleurs à travers le monde de manière ponctuelle. On l'a vu pas très très loin de la maison de la radio, dans ce qu'on appelle le triangle d'or, dans les palaces parisiens. On le voit aussi près de la porte de Clichy, mais également en province. Et lorsqu'on regarde les transformations du travail de ce type de personnel, elles ont été massives. Les technologies, elles ont servi à quoi ? À mieux optimiser leur organisation du travail, ou plutôt à densifier le travail. Lorsque un personnel d'entretien passe son badge pour rentrer dans une chambre, eh bien c'est automatiquement comptabilisé, on sait le temps que la personne passe. Donc en fait, les technologies sont vraiment présentes, et ces technologies, elles ont servi à densifier, intensifier le travail. Et lorsqu'on regarde, on a même aussi d'autres aspects, si on reste sur ce type de métier, il y a eu dans les années 1990, années 2000, ce qu'on appelle la guerre des coussins, c'est-à-dire que la concurrence s'est faite à travers le fait qu'on allait proposer des lits plus confortables. Alors pourquoi guerre des coussins ? Parce que lorsqu'on va dans une hôtellerie 4 étoiles, immédiatement, au lieu d'avoir 2 coussins, on se retrouve avec 6 coussins sur le lit, quelque chose comme cela. Voilà, un élément de confort. Il se trouve que tout cela se traduit par nettement plus de tâches à faire, et surtout, les lits ont augmenté en épaisseur et en poids. Et tout cela n'est absolument pas reconnu comme étant une productivité supplémentaire de ces travailleurs. C'est même pas reconnu dans les statistiques. Lorsque une entreprise offre un téléphone portable 2 fois plus puissant, on va dire que la productivité des travailleurs est doublée. Ben, lorsque l'épaisseur des lits double, eh bien, c'est absolument pas reconnu comme un gain de productivité. Et donc, ça veut dire que finalement, ce discours de polarisation, il repose certainement sur autre chose. Et cette autre chose, c'est ça que je cherche à développer, c'est plutôt l'existence de rente, c'est-à-dire la capacité pour les acteurs économiques de se procurer des avantages de manière prolongée, que ce soit à travers la le droit ou leur rapport de force. Et c'est là où je décris toute une série effectivement de gagnants. Et ces gagnants, ils vont par exemple du patronat qui saute définit finalement sa grille de rémunération, en passant par des segments où se maintiennent une forte syndicalisation, jusqu'à des catégories qui se reposent sur ce qu'on appelle des corporations, qui se reposent sur des éléments de protection juridique. Donc, lorsqu'on regarde ça, on a une autre lecture de la polarisation, une lecture qui est basée sur la capacité de chaque groupe social de capturer ou non des rentes.
Voilà, votre ouvrage se termine cependant sur une note plutôt optimiste. On peut sortir du fatalisme d'une inéluctable décomposition du monde du travail et, comme vous dites, réarmer le travail et envisager une alternative social-démocrate au néolibéralisme. Pouvez-vous nous dire un mot de conclusion ?
Oui, très rapidement, de ce que j'ai décrit, à la fois dégradation des conditions de travail pour certaines catégories, non-naturalité des rémunérations, ça devrait être un boulevard pour une pensée social-démocrate. Et donc, ce que j'invite aujourd'hui, c'est finalement la social-démocratie à essayer de s'évacuer de discours naturalistes, des enfermements dans lesquels elle s'est mise. Donc ça invite à regarder en face, quelle est la réalité aujourd'hui des inégalités, pourquoi les facteurs qui la déploient, de s'affranchir donc d'un discours, ce qui permettrait aussi, on essaie de s'attaquer à la question des inégalités, eh bien on voit que c'est aussi à travers ce passage social qu'on peut se projeter vers d'autres questionnements essentiels comme celui de d'avoir une politique qui d'adaptation et de résolution du changement climatique.
C'est sur ces derniers mots, Philippe Askenazy, Michel Leduc, que nous allons clore cette émission. Je remercie Claude Niort et Dany Journaud qui ont rendu possible cette émission et je renvoie au cahier rationaliste de ce mois-ci et à la revue Raison Présente au numéro 211 qui vient de sortir. Et je vous dis au mois prochain où nous recevrons Laurence de Coque.